nous nous rassemblons dans l'unité, comme on l'a dit tantôt, Seigneur, avec ce désir de te voir à l'œuvre au milieu de nous. Alors, Seigneur, prends ta place ce matin, celle qui te revient, et parle à nos vies, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur, pour communiquer ce message de la meilleure manière. Je prie vraiment que tu puisses agir avec puissance, comme toi seul, tu sais le faire, et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Et amen. Si on ouvre le dictionnaire, basiquement, bien simplement, le réveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Vous figurez, ça parle du fait de reprendre une activité, du fait de revenir à la réalité. Et si on parcourt le Nouveau Testament, la définition est un petit peu différente. Mais on remarque à plusieurs endroits que le sommeil est comparé à l'état, quelque part, de quelqu'un qui est sans vie, d'une mort spirituelle. Celui qui dort et dans les ténèbres, il est assis dans les ténèbres, et celui qui marche dans et celui qui est réveillé en opposition à celui qui est dans le sommeil, c'est celui qui marche dans la vie en Christ, qui marche dans la lumière. Et passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil, ben c'est un changement drastique, hein. On l'a déjà remarqué la plupart d'entre nous, c'est passer du repos à l'effort, c'est passer de l'inertie au mouvement dynamique, à quelque chose qui entraîne un mouvement derrière lui. Et pour les pros du snooze ce matin, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le snooze, c'est le petit bouton qu'on a mis sur un réveil qui sert absolument à rien, parce que c'est pour arrêter le réveil. Le but d'un réveil, c'est de te réveiller. Non, on a mis un snooze, et je sais qu'il y a des professionnels parmi nous qui utilisent, je suis marié à une de ces professionnelles-là, le bouton snooze qui te redonne 10 minutes de plus de sommeil à chaque fois, puis au final, tu as perdu une demi-heure, puis c'est comme si tu n'avais pas mis de réveil. Si tu es un professionnel du snooze ce matin, tu n'es probablement pas béni jusque-là, là, ce message ne te parle probablement pas. Et il y a une bonne nouvelle pour toi aussi ce matin, réellement, sincèrement. Une définition théologique du réveil que j'aime particulièrement dit que le réveil, c'est un changement qui produit un retour de vie et un renouvellement. Le réveil, c'est un changement qui a été initié par Dieu. C'est Dieu qui choisit le moment d'agir dans un peuple, auprès d'une personne, auprès d'un groupe de personnes, pour relancer, pour redonner la vie. C'est un changement initié par Dieu qui a pour fruit la vie. Et on veut tous de ce fruit-là. On en veut tous, on cherche ce fruit-là, on le désire. On veut voir Dieu à l'œuvre puissamment dans nos vies, on a soif de plus. Mais je crois que pour toutes sortes de raisons, et ça c'est le problème qu'on a bien la majorité d'entre nous, notre nature, nos peurs, ça peut être n'importe quoi. Par manque d'enseignement parfois, ben, on ne saisit pas toujours que le fruit qu'on attend bien, découle avant tout d'un changement. Découle avant tout d'un changement. Parce que la très grande majorité d'entre nous, les humains, on est fait comme ça, on est tout fait comme ça, de manière très 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 générale, on est réfractaire au changement. On n'aime pas ben ça, on n'aime pas quand ça change. On n'a rien contre le fruit du changement, au contraire, on le veut. On n'a rien contre ce que le changement apporte. Mais notre problème, c'est le changement en soi, on n'aime pas ça, ça nous inconforte. Parce qu'on n'aime pas ne pas pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Et ça nous ramène à notre création. On a été fait pour vivre éternellement. On a besoin de pouvoir s'appuyer sur quelque chose d'un petit peu plus durable que quelque chose d'inconnu, de flou, de vague, d'une nouveauté qu'on n'arrive pas, des fois, difficilement à percevoir. On a été créé pour vivre éternellement. Alors, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose de solide, quelque chose qui est là. Et si ce n'est pas Dieu, on va forcément s'appuyer sur autre chose. Et ça, c'est chacun d'entre nous, on est fait de même. Et c'est la raison pourquoi la Bible au complet parle abondamment, nous met en garde contre le fait de s'appuyer sur des idoles, le fait de s'appuyer sur d'autres dieux, le fait de s'appuyer sur des choses qui ne sont pas Dieu, parce que nous avons été faits pour trouver notre force et notre source en Dieu. Et au fond de nous, on en a tous besoin. On a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Alors, sans remarquer, on a toutes sortes de mécanismes qu'on se bâtit ou qui arrivent par la force des choses. On se crée ce genre de mécanismes pour maintenir une sorte d'équilibre, une forme d'équilibre dans notre vie. Ça peut être des activités, ça peut être des relations, ça peut être des personnes avec qui on se tient, ça peut être des raisonnements qu'on entretient, qu'on bâtit, qu'on érige dans nos vies. Et ce n'est pas pour rien que la pandémie, ça a été une source d'anxiété à ce point-là. Je ne veux pas nous ramener dans cette pandémie-là, mais toutes nos habitudes à ce moment-là, du jour au lendemain, ont sauté complètement. Mises dans le vague, sautées en même temps. Plus rien pour nous sécuriser du jour au lendemain. Et même cette espèce d'illusion qu'on a pour ceux qui sont en forme, qui n'ont pas de problème de santé, on se dit, regarde, j'ai la vitalité, tu sais, ma vie est là, j'ai la vitalité, je suis en forme. Mais avec cette pandémie, on nous a même enlevé ça, cette espèce d'illusion sur quoi on a tendance à s'appuyer en se disant, je suis là, je me tiens ferme et tout ça. Là, on a commencé à se sentir menacé dans les premiers jours. Chacun d'entre nous, on ne connaît pas ce virus, puis on est là. Mais voyons donc, même ma vie est menacée, puis là, je n'ai plus aucun contrôle là-dessus. On a besoin d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. Alors, quand on n'a plus ça, on cherche des explications. Dans tout ce qu'on vit, on cherche des raisons à ce qui se passe et ça nous amène dans une forme d'angoisse plus ou moins violente pour certains. Et j'aimerais vous proposer ce matin que spirituellement, ce que je suis en train d'expliquer est vrai aussi. Parce qu'on n'est pas confortable avec le changement. On n'aime pas ça, le changement. Alors on a tendance parfois à peser sur l'espèce de bouton snooze spirituel qui est devant nous en repoussant l'idée d'un changement à plus loin, en repoussant ce que Dieu veut faire. Le statu quo devient quelque chose de confortable. Rester dans là où on est sans rien changer, sans rien bouger, sans rien laisser transformer, c'est souvent plus rassurant que l'inconnu qui est devant nous. Vous êtes d'accord avec moi là jusque-là? On aime ça, on pèse sur le bouton snooze spirituel puis on attend de voir. Parce que là où on est, c'est plus confortable, on connaît là où on est. En avant, pas nécessairement. Et même si la situation actuelle est désastreuse, des fois, on préfère le statu quo. C'est ça, c'est un des paradoxes de notre vie humaine. Le réveil, c'est avant tout un changement. Le réveil dont on parle, c'est avant tout un changement. Quand j'étais au collège biblique, nos professeurs nous répétaient à tue-tête qu'il n'y a aucun changement. C'est pas possible d'avoir un changement pour demain sans dérangement aujourd'hui. C'est tellement vrai. Je veux le changement, j'ai soif du changement, je veux vivre le changement, le fruit du changement. Je ne suis pas prêt à être dérangé. Je ne suis pas prêt de passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Peut-être que toi, tu fais partie ce matin de ces personnes qui ont tendance à peser sur le snooze dans la vie de tous les jours, mais aussi spirituellement. Tu as tendance à vouloir reporter à demain ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu sais au fond de toi que Dieu t'appelle à te lever. Tu sais depuis un certain temps que Dieu t'appelle à faire quelque chose, à agir dans ta vie, à agir auprès de quelqu'un, auprès de toi, à laisser de côté quelque chose, mais tu as tendance à vouloir repousser ça. Au fond de toi, là, tu résistes au changement par crainte de l'inconnu, parce que tu ne sais pas trop où ça va t'emmener, tout ça, pour toutes sortes de raisons parfois. Des fois, on affectionne l'endroit où on est, tout simplement. Et je crois que Dieu veut nous amener ce matin, veut nous amener quelque part plus loin, veut nous amener ailleurs ensemble. Il y a un appel pour plusieurs à oser mettre sa confiance en Christ tout à nouveau, à renouveler cette confiance. Si on parcourt l'Ancien Testament dans le livre de l'Exode, en particulier, c'est un des livres qui me fascine le plus, que je préfère dans toute la Bible, le livre de l'Exode, parce que c'est l'endroit où Dieu décide de choisir, il avait déjà choisi son peuple, mais décide de mettre en avant le fait qu'il a choisi un peuple qui lui appartient, le sort de son esclavage, le conduit en personne à travers un désert, voit son peuple résister pour toutes sortes de manières. C'est vraiment un livre incroyable qui nous démontre comment Dieu veut être, comment Dieu est avec nous, comment Dieu désire qu'on puisse le suivre. Et alors qu'Israël était face à un tournant majeur, Dieu a appelé Moïse à sortir son peuple qui est depuis des siècles en esclavage en Égypte. Il l'appelle dans ce tournant majeur. L'avenir est rempli d'inconnus pour le peuple. Ils sortent d'esclavage, on sort tous ensemble, on est libre enfin, mais on ne sait pas trop dans quoi on s'en va là. Il y a des risques majeurs qui sont devant nous, on ne les connaît même pas. Le premier, ça a été la mer Rouge, la mer qui était fermée devant eux et que Dieu a ouvert en deux et l'ennemi, le Pharaon avec son peuple qui les poursuivait. Et ça, c'était majeur. En partant, ça commence avec des embûches. Plein de questionnements, plein d'embûches, plein d'inconnus, des risques. Et à ce moment-là, on voit dans le peuple d'Israël commencer à émerger cette idée que l'esclavage pouvait parfois, des fois, être quelque part en apparence plus doux que le changement qui était en avant. On entend le peuple qui commence à murmurer, puis qui commence à regretter d'avoir quitté. Et plus tard encore, alors que Dieu décide, à la mort de Moïse, décide de désigner Josué pour succéder dans cette conquête, dans cet exode, sortie d'Égypte, sortie de l'esclavage, pour aller vers le pays promis, pour entrer dans cette saison-là, Dieu va demander à Josué d'entrer dans une période non plus d'avancement dans le désert, mais de conquête. On commence à prendre le pays promis, on commence à prendre des territoires avec des ennemis. Et à ce moment-là, Dieu va déclarer ses paroles à Josué, qui de nouveau est face à l'inconnu avec le peuple d'Israël. Dans Josué 1, verset 9, il va dire à Josué, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Dieu initie le changement. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, Dieu est initiateur de changement dans nos vies. Dieu, tout ce qui vit grandit. Grandir, c'est un changement. Évoluer, je regarde mes enfants, la petite fille qui a 2 ans, là, le changement qui prend place dans la première année de vie d'un être humain est déjà incroyable. Dieu nous a fait pour grandir, pour évoluer, pour progresser, pour aller de croissance en croissance, de changement en changement. Dieu initie le changement. N'aie pas peur du changement. Dieu est maître du changement. Quand Dieu t'envoie dans une saison qui est nouvelle, dans quelque chose qui est inconnu en face de toi, il a prévu son plan. Comme il l'a fait avec son peuple, il le fait encore dans notre vie. N'aie pas peur du changement. Dieu est maître du changement. Et le réveil est avant tout un changement. Le réveil, c'est un changement. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Dans Philippiens 2, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens, majoritairement des jeunes chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, qui n'ont pas un arrière-plan dans la Torah, dans la connaissance de tout le parcours qu'Israël a traversé, comment Dieu s'est révélé. Eux, pour eux, c'est nouveau. Ils entendent parler de Christ qui s'est donné, comme pour nous, hein. Ils entendent parler de Christ qui s'est donné sur la croix pour les sauver du péché, pour les sauver du jugement qui les attend face à Dieu, qui pour payer la dette, littéralement. Ils sont comme nous, ils connaissent, ils sont dans les bases quelque part. Et l'apôtre Paul va rappeler aux chrétiens dans ses exhortations en leur disant, Philippiens 2, versets 14 à 15, en leur disant, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, comme des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. » C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien, en parlant du témoignage qu'il leur a donné de l'Évangile, en leur disant « faites tout ». Il exhorte les chrétiens en leur disant « faites tout, dans tout ce qui est devant vous, dans tout ce que vous vivez ». Il les exhorte à faire tout avec une belle attitude. Le tout, ça inclut aussi faire face au changement. Le fait de garder une belle attitude face aux changements qui surviennent dans nos vies. Parce que nos attitudes sont de puissants témoignages. Des fois, on ne se rappelle plus, on ne se souvient pas, on n'a aucune idée de comment notre attitude peut être un témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Et c'est ce que Paul va dire à ces chrétiens-là. Faites tout avec une belle attitude. Tout. Que ce soit le travail, que ce soit faire face aux changements, que ce soit les conflits, que ce soit les difficultés auxquelles vous pouvez faire face, que ce soit parfois dans le manque ou dans l'abondance. Comment vous gérez les biens, comment vous gérez ce que vous possédez. Faites tout avec une belle attitude parce que c'est un témoignage. Les gens du dehors vous voient et voient la manière dont vous vivez les choses et ils le voient comme un témoignage qui pointe vers Dieu. Trop souvent, on attend un réveil qui est lointain, vague, inaccessible. Tellement souvent, j'ai eu des conversations où j'entendais des hommes, des femmes qui priaient des fois depuis 30 ans pour un réveil. Peut-être que c'est ton cas. Tu pries pour un réveil depuis des années. Et je me rappelle avoir eu une conversation avec un homme il y a quelques années en arrière. Ça faisait vraiment littéralement une trentaine d'années qu'il priait pour le réveil. Puis lui avait vraiment une vision lointaine de ce réveil qui vient pas. Puis il y avait un découragement sur lui. Spirituellement, il était épuisé, était découragé. Presque un peu déçu de voir que Dieu n'agit pas comme il l'attendrait. Lui avait vraiment une vision d'un réveil de masse énorme, comme on en voit parfois dans certains pays, où Dieu envoie vraiment une moisson, littéralement, d'hommes et de femmes. Et lui s'attendait à voir ça, et puis que ça allait tomber par clair comme ça, jour au lendemain. Puis lui allait être spectateur, voir ce que Dieu va faire, sans rien avoir à faire là-dedans. Trop souvent, on attend un réveil lointain, vague, inaccessible, parce qu'on n'est pas prêt à nous-mêmes nous abandonner au changement que Dieu veut faire dans nos vies, que Dieu veut initier dans nos vies. Vous savez, l'exemple du peuple d'Israël, pour moi, c'est vraiment un exemple à prendre vraiment au sérieux. D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, les disciples, des apôtres qui parlaient aux premiers chrétiens leur rappelaient que tout ce qui s'est passé dans cette période, dans ce périple de l'Exode, sert d'exemple pour nous aujourd'hui encore. Prenons ça au sérieux. Alors que Dieu les amenait à quelque chose de complètement nouveau, qu'est-ce qui est dit dans l'Ancien Testament? Ils raidirent leur nuque. Peuple au cou raide. Combien de fois Dieu doit reprendre Israël en lui disant « Tu es un peuple au cou raide, qui résiste à ce que je veux faire. » Et leur résistance a causé le report des bénédictions que Dieu avait pour eux, que Dieu avait en réserve pour eux en avant. On le voit dans Néhémie 9, 16 à 18, alors que le peuple est on s'en va dans une série sur Néhémie. Allez lire le livre de Néhémie, c'est passionnant, c'est fascinant de voir comment Dieu restaure ces ruines qui ont été brisées, cette ville de Jérusalem qui avait été laissée à l'abandon après la déportation qui a pris place. Néhémie 9, versets 16 à 18, c'est Néhémie qui parle et qui rappelle au peuple ce qui a pris place durant l'Exode. « Cependant, eux qui étaient nos ancêtres, en parlant du peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, ils ont fait preuve d'arrogance et se sont montrés réfractaires. Ils ont eu la nuque raide, ils se sont montrés résistants. Ils n'ont pas écouté tes commandements et ont même refusé d'obéir. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur, et se sont montrés réfractaires. Et dans leur révolte, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Non, tu ne les as pas abandonnés. Même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, et ont dit, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, comme étant ainsi l'acte le plus insultant contre toi. Ne soyons pas comme ces anciens esclaves libérés, qui ont préféré retourner en captivité par peur de faire face à l'inconnu. Ben, c'est vraiment ça qui se passe en Israël. Oh, c'est épeurant. On ne sait pas où Dieu nous emmène. C'est nouveau. On ne sait pas c'est quoi que Dieu veut faire. Hop, on va retourner en arrière. En Égypte, il y avait des dieux, il y avait des statues. Mais au moins, il y avait une image, on savait comment faire. Fait que là, le connu devient une nouvelle idole. Et là, il faut faire attention. Dieu veut te surprendre encore. Dieu veut nous surprendre encore. Et ça, c'est un effort, c'est un exercice, c'est un challenge qui nous est lancé. Le réveil dont la Bible parle, c'est littéralement un bouleversement qui a été initié par Dieu, qui peut être amorcé par l'appel, on le voit à travers la Bible, par l'appel d'un prophète, d'un homme, d'une femme de Dieu, d'un roi parfois dans l'Ancien Testament, dans la vie qui prend place dans la vie d'une personne, qui prend place parfois dans la vie d'un groupe de personnes, afin de renverser l'ordre des choses, l'ordre déjà connu, afin d'amener un changement drastique dans le but de ramener la vie, de ramener à la vie ce qui était mort spirituellement. On le voit prendre place dans la vie de Paul, l'apôtre Paul, dans Actes 9, au verset 1 à 9. Quant à Saul, en parlant de Paul, qui respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouvait homme ou femme. Paul, avant de devenir l'apôtre de la grâce, l'apôtre Paul qu'on cite dimanche après dimanche, l'apôtre Paul, qui a rédigé près du 2/3 du Nouveau Testament, c'était un homme qui voulait appliquer la loi. C'était un homme qui était contre les chrétiens. Et là, reçoit une lettre qui lui permettait de pouvoir aller, peu importe où il allait, là c'était à Damas, pour mettre en arrêt, pour mettre sous les verrous ceux qui croyaient, comme nous. Imaginez-vous quelqu'un qui débarque ici ce matin, puis qui vient nous mettre en arrêt parce qu'on est rassemblés à parler de Christ. Et là, il est sur son chemin. Et au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alors lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main pour le conduire à Damas. Il y resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. C'est à partir de ce que Jésus a commencé à faire, à partir de ses paroles, que tout a commencé sur le chemin de Damas pour l'apôtre Paul. À partir de ce bouleversement-là, on n'a peut-être pas vécu un bouleversement de cette manière-là, nous, quand on a rencontré Dieu, mais Dieu est venu bouleverser nos vies. Dieu est venu changer quelque chose dans nos vies. Chacun d'entre nous, si on est là ce matin, tu as eu une rencontre avec Dieu. D'une manière ou d'une autre, il s'est révélé à toi. Il s'est manifesté à toi et il a commencé à changer ta vie. Il y a eu une repentance, il y a eu un regret par rapport à ce que j'ai fait. Il y a eu quelque chose que j'ai reconnu devant Dieu. J'ai besoin de toi comme sauveur. Mais Dieu a agi d'une manière puissante dans ta vie. Il y a eu un bouleversement qui a pris place. La même manière que pour Paul, que le Seigneur avait initié dans sa vie. Un changement radical a pris place ce jour-là dans la vie de Paul. On le voit dans le Nouveau Testament qui commence à partir de Actes 9. Et tout ça, ça va occasionner un bouleversement en chaîne pour des milliers de personnes jusqu'à nous aujourd'hui, à cause d'un changement, à cause d'un réveil dans la vie de quelqu'un, l'apôtre Paul. Moi, un des passages qui me marque le plus dans le livre des Actes, c'est Actes 19, alors que Paul, quelques années après sa conversion, se retrouve à Éphèse, une grande ville, plusieurs milliers d'habitants. On dit qu'il y a un amphithéâtre de près de 20 000 personnes dans cette place. Hey, c'est un centre. Il y a combien de places, centre Vidéotron, ici? Combien? 20 000? 20 000 places? Ouais. C'est un Québec. C'est une grande ville commerciale, pleine d'habitants de toutes les sortes, des gens qui viennent d'un petit peu partout, multiculturels, des touristes, des gens qui viennent pour les affaires. Et dans cette ville-là, alors que ça fait 2 ans que Paul est avec un groupe de personnes à enseigner dans les synagogues, à enseigner dans l'église, à enseigner partout dans les rues, à enseigner la bonne nouvelle, à partager la bonne nouvelle du salut, eh bien, le Saint-Esprit convainc les cœurs et des vies sont transformées complètement. Il y a un réveil qui entend de renverser la ville, de bouleverser la ville au complet. On va lire dans Actes 19, les versets 10 à 20. « Cela dura 2 ans, si bien que les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur, ce qu'ils avaient commencé à Éphèse. Verset 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Et ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Eux ont vu une source de gain à ce moment-là. Ça marche avec Paul, on va l'essayer. Verset 14, et ceux qui faisaient cela étaient les sept fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. Et alors la crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du Seigneur Jésus. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent de tout ce qui avait été abandonné. On parle de livres et de matériel qui étaient voués à l'ésotérisme, à l'occultisme. Tout a été abandonné. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Vous savez, on peut parler pendant des heures des miracles qui prennent place. On peut s'attarder aux miracles qui prennent place ici. Et c'est souvent ce qui retient notre attention quand on lit ce passage-là. Et moi, je crois que l'intention de Luc... Vous savez, Luc prend le soin... Luc, qui a écrit le livre des Actes, prend soin de vraiment préciser... plusieurs détails par rapport à ces charlatans qui voulaient faire des miracles, qui voulaient reproduire des miracles. Je pense que si Luc met un emphase là-dessus, c'est pour nous rappeler que notre focus ne doit pas être sur l'action miraculeuse, au-delà de ça. Elle doit être sur la puissance de celui qui agit, de Christ, qui est l'auteur de ces actions miraculeuses, qui peut changer des vies. Faisons attention de ne pas manquer l'essentiel, mais la parole était proclamée, c'est ce que le texte dit. La parole était proclamée. Dieu était à l'œuvre de toutes sortes de manières à Éphèse. Il bouleversait le cours de la vie de ces gens. La crainte et une conviction de péché commencent à prendre place dans le peuple. Ça commence à ressembler à un réveil spirituel, ça. Et on reconnaît la grandeur de Jésus partout. Et moi, ce qui retient le plus mon attention ici, acte 19, versets 18 et 19, le texte nous dit qu'à ce moment-là, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et brûlèrent devant tout le monde. On dit 50 000 pièces. Le texte nous mentionne que ce sont des croyants qui se réveillent parmi ces personnes en premier. Des croyants. C'est parmi ces personnes que des changements concrets prennent place en premier. Parmi les croyants. Je répète, parmi les croyants. Et le texte nous dit que c'est comme ça que la parole du Seigneur se propageait, gagnait en puissance au point d'avoir un impact sur toute une ville. Ça commence par nous. Le réveil, ça commence par nous. Je crois que c'est un mensonge habile que l'ennemi se plaît à véhiculer parmi nous depuis des siècles maintenant. L'ennemi se plaît à nous laisser croire que le réveil, c'est quelque chose de vague, de lointain, sur quoi on attend les bras croisés. En priant, oui, on espère, on le souhaite, on le désire, on veut le fruit. Mais que ça ne nous concerne pas nous en premier. Ça ne nous concerne pas nous nécessairement. Ça concerne plutôt des gens qui ne croient pas. Ça concerne des gens loin. Ça concerne des peuples autour de nous. Ça concerne parfois nous, mais dans une... manière tellement vague, tellement abstraite qu'on n'arrive pas à le vivre, à l'expérimenter. Ma conviction ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu veut nous réveiller personnellement, veut nous réveiller pour cette saison-là. La seconde chose que je veux souligner dans ce passage, le réveil c'est un changement. La seconde chose que je veux souligner dans ce message, c'est que le réveil, c'est Dieu qui vient bouleverser ma vie. Ça commence par moi, ça commence dans ma vie, ça commence toujours dans ma vie. Et la dernière chose, je vais appeler les musiciens à me rejoindre, avant de terminer, c'est que le réveil, le bon moment, c'est toujours maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 100 ans, ce n'est pas un hasard. Qui ont suivi ce qui a pris place à la faculté d'Asbury l'année passée? Eh bien, c'était cette année. Vous avez vu un petit peu passer sur les réseaux sociaux un groupe de jeunes étudiants. Ça devait commencer une petite chapelle étudiante un mercredi matin avec un leader dans la... C'est une faculté de théologie, là, puis il y a une chapelle avec des étudiants qui viennent pour se recueillir, ils louent, ils adorent, puis ils écoutent un message. Puis il y a eu un petit message qui a été donné ce matin-là. Les jeunes ne sont jamais partis. Ils n'ont jamais quitté. Conviction, Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-nous, change-nous, on en veut plus. C'est devenu un mouvement qui a duré, je ne sais pas, 2-3 semaines, ou en permanence, 24-7, de la louange, de l'adoration, des gens qui viennent de partout. C'est devenu un cirque par la suite. Il y a tous ceux qui voulaient voir. Waouh! Mais ceux qui ont commencé ont vécu quelque chose dans la présence de Dieu, en voulaient plus, désiraient voir Dieu à l'œuvre dans leur vie. Et ça a pris place à ce moment-là. Ce matin, tu peux littéralement passer de l'état d'un sommeil, de cet état d'inertie spirituelle à un état de vie et d'abondance spirituelle par la grâce de Dieu. C'est possible aujourd'hui. C'est possible ce matin. L'apôtre Paul avait cette conviction qu'on le voit à travers le Nouveau Testament. Là, on voit auprès des Éphésiens, dans Éphésiens 5, versets 8 à 16, autrefois, il va leur dire, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Il ne parle pas dans le futur, faites-le maintenant. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Verset 10, discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est toujours honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Et c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Et rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a une urgence à se réveiller dans la pensée de Paul, à travers le Nouveau Testament, dans son message, d'église en église. Réveille-toi maintenant. C'est le temps de se réveiller maintenant. C'est le temps de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle maintenant. C'est le temps d'entrer dans ce changement que Dieu veut faire dans ta vie. Il y avait cette conscience de l'urgence. Littéralement, il était en train de leur dire, n'attends plus là. Attends pas quelque chose de loin, de vague, un peu utopique, passivement, comme un acteur. Jésus revient bientôt. C'est plus le temps de niaiser. C'est plus le temps d'attendre. Et Paul avait déjà, il y a 2000 ans en arrière, plus de 2000 ans en arrière, avait déjà cette conviction. C'est plus le temps d'attendre. C'est pas le temps de prendre un guess puis de se dire, oh, mais peut-être que ça va marcher, je vais attendre. C'est le temps maintenant. Romains 13, versets 11 et 14. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Le texte nous dit, réveillez-vous. Sortez du sommeil dans lequel vous êtes, qui est caractérisé par l'inertie, par l'attente, par les occasions perdues de porter du fruit, par le retour en arrière constant. Le texte qui est employé ici, c'est pour parler de préoccupation, c'est le mot pronoia, qui littéralement se traduit par soin provisionnel, faire provision d'une chose. On parle de quelqu'un qui en prend un petit peu pour en garder au cas où il en manque, puis qui s'affectionne à quelque chose parce qu'il l'aime tant. Tu sais, quand tu vois un spécial à l'épicerie, puis d'un item que tu aimes tellement, puis tu ne sais pas trop s'il va revenir ou disparaître, puis tu en achètes 15 boîtes, certains font ça. Hein. C'est un petit peu ça la pensée derrière. Littéralement, ce que Paul est en train de dire, cessez d'approvisionner ce qui est mort, ce qui porte la mort, ce qui ne peut pas porter la vie. Et marchez dans la lumière maintenant, en vous revêtant au plus vite de tout ce qui caractérise la présence et la personne de Jésus-Christ dans votre vie. Et ça, c'est possible de le vivre. Ça, c'est le premier fruit, c'est la première marque d'un réveil. Et ça peut se vivre ce matin. Vous savez, la semaine passée, je parlais avec quelqu'un qui me partageait sa soif de Jésus. Désir en savoir plus, en connaître plus. Et pendant qu'il me parlait, c'est sûr qu'on y allait à coups d'arguments pour essayer de l'apaiser, de le convaincre, mais je l'écoutais parler, puis moi, il me ramenait il y a 19 ans en arrière, pratiquement, là, où j'étais ado, puis je cherchais Dieu, j'étais dans mes affaires, dans mes problèmes, dans mes difficultés, dans mes troubles. Pensées noires, pensées suicidaires, toutes sortes d'affaires. Puis à chaque fois qu'on me parlait de Dieu, j'ai quand même grandi dans un foyer chrétien. Je connaissais Dieu. J'en connaissais suffisamment de Dieu pour savoir que je n'étais pas à bonne place face à lui puis qu'il fallait que je craigne pour ma vie. C'était un petit peu tout ce que j'avais. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'on me parlait de Dieu, il y avait quelque chose au fond de moi qui... J'en veux plus. J'ai soif de plus. Je désire plus. Puis je ne sais pas comment. J'aimerais ça rencontrer ce Dieu-là. J'aimerais ça, quand j'entends cette personne en parler... En avant, j'aimerais ça, moi, avoir une relation avec Dieu comme ça. Puis ça venait pas. Je comprenais pas comment ça marchait. Puis moi, il me ramenait dans ça. Avec du recul, je sais que Dieu était en train, toutes ces années-là, Dieu était en train de préparer mon cœur pour une rencontre avec lui. À un moment donné, il m'a pris au détour et puis il m'a saisi là où j'étais, m'a fait comprendre la valeur que j'avais à ses yeux, mais surtout que ce que j'avais fait dans mon passé, il le connaissait déjà. Il le savait déjà. Et il avait prévu autre chose pour la suite. Il a tout prévu, puis il l'a fait pour toi. Et j'ai la conviction ce matin que c'est le temps de vivre un réveil pour plusieurs ici. Sors du sommeil ce matin. Sors de ce sommeil-là. Peut-être que c'est le changement qui te fait peur. Fait que ce matin, on va terminer maintenant. J'aimerais qu'on puisse juste incliner nos têtes quelques instants parce que je veux donner l'occasion à quelqu'un de répondre à ce message d'une manière très concrète. Peut-être que toi, ce matin, c'est nouveau pour toi. Ça fait quelques semaines, tu reviens, tu viens à l'église, c'est tout nouveau pour toi. Dieu veut bouleverser ta vie en initiant un changement que lui seul peut faire dans ta vie, que tu ne vas jamais regretter. Je te promets que tout a été accompli sur cette croix. Hein. Ce qu'il commence, il l'amène à son terme. Et si tu entends cet appel ce matin, je t'invite à ne pas fermer ton cœur ce matin. Si tu entends ce message ce matin, Jésus a littéralement tout accompli, c'est sa promesse. Et il n'y a aucun péché, ni aucune faute, ni aucun éloignement qui est trop grand, trop lourd à porter pour qu'il puisse le prendre sur son compte. Il te connaît parfaitement, les bons, les mauvais coups. Alors ce matin, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un qui cherche, bien laisse-toi rencontrer ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut commencer ce changement dans ta vie. Et si c'est ton cas, je veux te donner l'occasion de t'approcher de Jésus pour peut-être la première fois, ou de revenir à lui ce matin, de mettre ta confiance en lui. Laisse-le bouleverser ta vie. Fais-lui confiance suffisamment pour qu'il puisse changer ce qu'il a changé dans ta vie. Et si c'est ton cas, j'aimerais juste te demander, lève ta main à ta place, je veux prier particulièrement pour toi. Je veux prier pour cette situation dans ta vie. Seigneur, je te prie pour quelqu'un ce matin qui a besoin de vivre ce changement drastique dans sa vie, ce réveil qui veut passer de la mort à la vie ce matin. Peut-être pour la première fois. Et Seigneur, je te demande de poser ta main sur ceux et celles qui lèvent leurs mains ce matin et qui désirent cette rencontre avec toi. Que tu puisses te manifester à eux. Ta parole nous dit que lorsque ton Esprit Saint vient sur nous, prend domicile dans nos vies, bien, il dépose en nous ce sentiment d'être adopté. Ce cri du cœur qui déclare « Tu es mon Père ». Bien ce matin, Seigneur, je prie que tu puisses agir avec puissance dans la vie de ceux et celles qui te cherchent ce matin. Il y a un changement que tu veux faire dans la vie. Un réveil. Seigneur, donne-leur la force et la capacité de laisser en arrière ce qu'ils ont à laisser. De laisser, comme les habitants d'Éphèse ont brûlé littéralement ce qui caractérisait leur ancienne vie, ont brûlé ce qui caractérisait leurs objets d'adoration, leurs objets de culte, leurs occupations. Pour te faire confiance, Seigneur, pour prendre la vie que tu avais pour eux, je prie ce matin que tu puisses donner cette capacité. Agis dans la vie de ceux et celles qui viennent à toi ce matin, d'une manière particulière, pour la première fois peut-être. Et ce message est aussi pour quelqu'un qui est croyant ce matin. Tu es un croyant, ça fait longtemps que tu es un croyant. Ça fait longtemps même que tu attends un réveil, que tu pries pour un réveil dans ta ville, dans ton église, dans ta vie personnelle. Mais tu es présentement dans un sommeil spirituel toi-même, depuis un certain temps. Tu n'es plus aussi fervent que dans le passé. Vous savez, l'apôtre Jean écrivait aux églises dans l'Apocalypse 3, versets 14 à 22, des rappels, des mises en garde de la part du Seigneur. Et il écrit ceci, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le fidèle, le témoin fidèle, le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, tellement souvent on se dit, ah, il faut que tu sois bouillant uniquement. Non, non. Ce que Jean est en train de dire, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'en n'étant ni froid ni bouillant, tu es complètement inutile. Parce que l'eau tiède, c'est pas bon, ça goûte rien, ça aide personne. Sois froid, soit une source de rafraîchissement, ou soit bouillant. Soit utile, comme l'étaient les bains thermaux de cette époque, pour prendre soin, pour faire du bien, pour restaurer le corps. Sois pas tiède, ça sert à rien. Sois actif, sois en vie, sois réveillé. Ainsi, parce que tu es tiède, ni tiède, parce que tu es et que tu es ni tiède, ni froid, ni bouillant, pardon, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède pour appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, c'est le Seigneur qui parle, et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Littéralement, dans certaines versions, on peut lire « Passionne-toi donc et change radicalement ». C'est l'appel de Jésus. Rallume la flamme, réveille-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, eh bien j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu veut te réveiller, toi, ce matin. Il veut réveiller ton âme puissamment. Toi qui es un croyant. Toi qui es assis dimanche après dimanche depuis des années dans cette église ou dans une autre église. Peut-être que tu viens d'ailleurs ce matin. Comme ça, c'était possible pour l'apôtre Paul, c'est possible pour toi, par la grâce de Dieu, de vivre ce bouleversement, ce changement. L'apôtre Paul, son caractère a été transformé ce jour-là. De l'homme qui respirait le meurtre et la violence, il devient l'apôtre de la grâce. Dieu veut changer tout dans nos vies. Ses relations ont été changées. Ses amis, les juifs, sont devenus ceux qui voulaient mettre fin à sa vie. Et ceux qui considéraient lui comme ses ennemis, ceux que lui, Paul, voulait détruire, l'ont appelé frère, sont devenus sa famille suite à ce bouleversement-là. Les juifs veulent voir Paul mourir alors que les disciples l'accueillent à bras ouverts en mettant la grâce en pratique. C'est incroyable le bouleversement qui prend place, c'est radical. Son message a changé. De celui qui était contre Jésus et le message de la croix, il devient celui qui prêche Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sa mission, sa raison d'être, tout a été changé. De celui qui allait détruire l'Église jusqu'au moment où il a été bouleversé par la grâce, il est devenu celui qui a donné sa vie pour bâtir l'Église et propager la grâce. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Toutes les sphères de ma vie, il veut les transformer. Et c'est ça le réveil. C'est d'accepter ce changement-là dans ma vie, de le recevoir. Dieu veut l'initier ce matin. Et ce matin, j'aimerais prier pour nous. J'aimerais que, alors qu'on va chanter ce dernier chant ensemble, qu'on puisse accueillir ce réveil dans nos vies. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi. J'ai tant besoin que tu viennes agir dans ma vie. Seigneur, moi le premier, je viens devant toi ce matin. Tellement souvent, je suis réfractaire à ce que tu veux faire. Tellement souvent, je résiste à ce que je ne connais pas. Tellement souvent, Seigneur, moi le premier, je ne te laisse pas agir comme tu devrais, comme tu voudrais agir. Seigneur, ce matin, on vient devant toi avec ce désir de se laisser transformer par ta grâce. Ce désir de se laisser changer par toi. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous. Seigneur, permets-nous de vivre ce réveil. Que dimanche après dimanche, Seigneur, cette atmosphère de foi, d'attente de ton action, de ton œuvre, parfois ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas, Seigneur, de toi, soit palpable dans ce lieu, Seigneur. Et qu'à travers le témoignage des croyants, à travers le changement qui est opéré dans la vie des croyants, il puisse y avoir des changements autour de nous, des réveils qui prennent place, des témoignages incroyables. Seigneur, c'est par la soif que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, que nous attisons la soif des autres. Alors Seigneur, commence chez nous. Commence dans nos vies. Commence dans ma vie. Seigneur, permets-moi d'être renouvelé en toi ce matin. Chacun d'entre nous, nous en avons besoin. Chacun d'entre nous, nous avons soif de toi. Mais parfois, nous avons peur du changement que tu veux faire. Seigneur, ce matin, on veut te dire, conduis-moi, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur, comme tu le faisais pour Israël dans le désert, avec une nuée en avant de nous, qui nous dirige pas après pas. Et Seigneur, garde-nous, protège-nous, préserve-nous d'être un peuple au cou raide, résistant, refusant ce que tu veux faire, Seigneur. Résistant à toute forme de changement, parce que c'est insécurisant. Seigneur, change-nous. Change-nous avec puissance ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Juste avant de se laisser, j'aimerais qu'on puisse se lever, qu'on chante ce dernier chant ensemble.